Numérique, les femmes au pouvoir, un podcast imaginé et réalisé par Jordi Soudé pour Comme et Média. Dans un monde du numérique dominé par les hommes, certaines femmes ont déjà pris les devants et les rênes du pouvoir. Comme et Média vous propose d'aller à la rencontre de ces dirigeantes qui ont réussi à s'imposer dans cet univers. Pour ce deuxième épisode, découvrez le parcours d'Adeline Chai, directrice de Micropole Grand Ouest.
Adeline Chai, j'ai 37 ans et du coup je dirige le bureau de Micropole dans le Grand Ouest. Aujourd'hui Micropole c'est 1200 salariés répartis sur 16 agences et dont 3 sont finalement rattachées au Grand Ouest sur les sites de Nantes, Rennes et Niort. J'avais pas vraiment de vocation ou de métier passion qui était finalement venu assez directement quand j'étais jeune. Donc l'idée, c'était d'ouvrir le plus possible, donc ce qui m'a fait faire un bac scientifique, puis un IUT, technique et commercialisation. Donc là, ça a teinté un peu plus vers des fonctions liées au commerce. Mais au bout de 2 ans, je me suis rendu compte que c'était peut-être un peu court. Donc, j'ai poursuivi vers une école de commerce, donc l'école de commerce de Rennes. Voilà, donc, à la base, pas du tout de la tech. C'est vraiment mon année de césure pendant l'école de commerce, donc entre la deuxième et troisième année, qui m'a orientée finalement dans cette voie-là. Et puis, je ne suis jamais ressortie.
Parce que c'est du coup l'année de césure, c'est des stages.
C'est ça, une année où on arrête ses études pour découvrir le milieu de l'entreprise.
Et tu es rentrée dans un univers d'informatique.
Ouais, chez IBM. Complètement par hasard. Le besoin que j'avais et le deal un peu avec mes parents à l'époque, c'était d'être autonome financièrement. Si j'arrêtais pendant un an vraiment le cursus académique en tant que tel. Mais je trouvais ça quand même super intéressant. Donc, il me fallait quelque chose quand même d'intéressant, mais qui puisse subvenir à mes besoins quand même pendant cette année-là. Sauf que j'étais en semestre à l'étranger en Chine, ce qui compliquait quand même un petit peu la recherche. Et donc, j'ai été cooptée en fait par une personne de mon entourage qui m'a aidée à trouver ce stage, cette année de césure du coup chez IBM. Et c'est comme ça que je suis arrivée là.
Donc, IBM, c'était où ?
C'était à Nantes. Pareil, je suis tombée dans le numérique et je suis tombée à Nantes et je ne suis jamais repartie ni de l'un ni de l'autre. Donc, le job, c'était d'être sales junior sur de la vente en B2B et via des partenaires de matériel type serveur. Donc, c'était très sur de l'hardware. Donc, un peu loin du secteur du service que j'ai rejoint plus tôt après. Le côté très infrastructure, on va dire, était quand même pas simple pour rentrer dedans. Pendant ma troisième année, donc et ma dernière année à l'école de commerce, j'ai été recontactée par le directeur d'agence parce qu'ils ouvraient des postes à des juniors et ça me permettait de rentrer dans le monde du travail, cette fois en CDI, sans même en chercher. Donc c'était, je trouve, une super opportunité. Sachant qu'IBM, ça reste une très grosse boîte, mais qui a un capital intellectuel et on a une capacité d'apprendre, surtout quand on démarre dans ce type d'écosystème qui est quand même très riche. Donc, je ne me suis pas vraiment posé la question trop longtemps pour les rejoindre. C'est finalement les premiers pas aussi dans l'univers du service en tant que tel, où là, j'ai vraiment bien accroché sur les principes. Après, je me déplaçais énormément parce que j'avais un job qui était, une jambe à Nantes et puis une jambe à Paris.
D'accord.
Et puis, l'énergie qu'on met dans les trains, qu'on prend plusieurs fois par semaine, n'est pas mise ailleurs, que ce soit pour soi-même ou pour son job. Donc, j'ai cherché autre chose après cette première période de quasiment 5 ans.
Et chez IBM, alors si on revient un peu à la problématique des femmes dans le numérique, chez IBM, c'était quoi très partagé sur certaines fonctions
Alors, sur les fonctions rattachées au commerce, c'est plus équilibré. En règle générale, c'est quelque chose que j'ai pu aussi observer dans les autres expériences où on est dans une mixité où il y a peut-être un peu plus d'hommes, mais c'est assez équilibré. Par contre, vraiment, dans les fonctions plus liées à la compétence technique, on a quand même très peu de femmes. Ça, c'était sûr. Et puis, finalement, moi, ça se cumulait aussi avec un écosystème de collègues qui étaient quand même expérimentés, là où moi, je démarrais complètement. Donc, on va dire que c'est presque plutôt ça qui faisait un peu la différence.
Et tu dirais que depuis tes débuts, c'est des choses qui ont évolué dans l'univers de l'informatique, c'est des choses qui...
Ouais, j'ai quand même l'impression que ça évolue. Après, je n'y suis plus, notamment chez IBM, donc je peux pas dire en ce qui les concerne, mais là, ce que je vois, c'est que globalement, on arrive, bon an, mal an, toutes fonctions confondues, à être autour de 30-35% de femmes dans le numérique qui vont travailler. Donc, bah, c'est évidemment pas encore assez. Et c'est vraiment dommage parce qu'on s'est en plus prouvé que quand on a un bon équilibre de représentation homme-femme, on a une performance des entreprises qui est supérieure et un bien-être au travail, en règle générale, un environnement qui est plus favorable. Donc il faut qu'on travaille dessus.
Et aujourd'hui, chez Micropole, c'est 30 à 35%, c'est ça?
Oui, sur le Grand Ouest, on est un peu plus de 35%, je ne sais plus si 35 ou 36. Ouais, toutes fonctions confondues, mais on a quand même une grande majorité des fonctions qui sont liées directement au métier du numérique, ouais, de la data et du digital. Donc c'est plutôt, on va dire, un peu surreprésenté par rapport au pourcentage de diplômés dans cette filière. Donc c'est bien. Toujours dans le même type de fonction, mais dans le secteur du conseil. Donc j'ai rejoint Solucom qui est devenu Wavestone, d'accord, qui est un cabinet de conseil en management et en système d'information. Donc sur le bureau de Nantes pour accompagner en fait le développement et la diversification client, donc dans des jobs de commerce puis de responsable commercial. L'idée était de réinvestir pour que la croissance continue, parce qu'on est dans un modèle de croissance plutôt dans ce type de société. Donc le bureau, je pense, sur les 8-9 dernières années, a dû tripler d'effectifs. Il y a Niji, qui a été une expérience un peu plus courte, où finalement je suis restée 7 ans chez Wavestone. C'était une super aventure humaine. Quand les collègues deviennent des amis, qu'en plus on s'éclate au travail, donc c'est super, mais j'avais envie de me rechallenger, on va dire. Donc j'étais, ça m'a conduit finalement à partir, à rejoindre Niji en tant que manager commercial. Mais finalement, assez peu de temps après mon arrivée chez Niji, la conversation s'est enclenchée dans le cadre d'un recrutement avec Micropole, ce qui fait que je n'y suis pas restée très très longtemps.
Ça a été transitoire, on va dire.
C'était pas l'idée de base, évidemment, hein, parce qu'on part pas pour se dire « je vais faire un saut de puce » entre guillemets quelque part, mais ça s'est fini comme ça.
Et sur les derniers postes avant Micropole, il y avait déjà du management, donc tu avais des équipes qui travaillaient.
Alors, comment ça se déroule ? Plutôt du management transverse. Parce que du coup, en tant que responsable commercial, donc on est amené à piloter finalement tout le développement et la relation client, ce qui amène finalement à avoir un pilotage un peu transverse sur quelle direction on veut donner dans la définition de ses objectifs, sur quel secteur d'activité, pour quel type de prestation de service, et après finalement d'orchestrer l'ensemble. Donc c'est plutôt le fait d'être associé vraiment aux décisions, on va dire, du bureau en tant que tel, d'y participer, et puis après de les exécuter. Et puis après j'avais une responsabilité commerciale, notamment chez Wavestone, de représentation vis-à-vis du groupe, des objectifs, et puis une personne qui travaille avec moi sur le sujet. À force de travailler de toute façon en proximité avec, j'allais envie de dire, les sachants de tous ces sujets, on s'acculture, on comprend, on s'intéresse. Je pense être quelqu'un d'assez curieux, donc ça m'intéresse toujours quand finalement on m'explique, même si au début je comprends pas grand chose, il en restera toujours quelque chose qui va s'améliorer et grandir au fur et à mesure du temps, et c'est ça qui est intéressant. Non, pas du tout. pas du tout. Surtout, plus on est dans des métiers techniques, plus c'est difficile de vulgariser. Donc ça, c'est évident que c'est pas toujours simple, mais on y arrive.
Est-ce que toi, dans ta carrière ou aujourd'hui à ton poste, cette structure parce que tu es une femme et pas issue du monde de la tech, enfin pas avec une formation tech. Est-ce que ça arrive aujourd'hui? C'est quelque chose qui est totalement normal.
Alors, ça pourra arriver par rapport à soi-même, peut-être. C'est-à-dire de se dire, bon, est-ce que vraiment ça va bien d'être accepté, etc.
Donc on peut se censurer de ne pas postuler.
Je pense, c'est ça. C'est qu'on se dire, je ne l'ai pas déjà fait, donc je ne vais pas y aller. Et forcément, du coup, on rate plein d'opportunités. Donc, je pense que la censure, elle vient plutôt de soi-même et rarement des autres. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à se dire que on est capable de le faire parce que là, en tant que tel, la recherche n'était pas forcément sur quelqu'un qui l'avait déjà fait, mais quelqu'un qui pourrait le faire. Donc, ça marche, en fait. C'est le potentiel. Donc c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Et puis, moi-même, je me suis posé la question, mais ça se trouve, ça ne va pas marcher. Je vais rater quoi que ce soit. Des questions que tout le monde peut se poser. Hein. Et puis, j'en suis venue à me dire, et alors qu'est-ce qui va se passer comme risque? Je retournerai faire un autre job, c'est un secteur qui est dynamique, ce sera pas facile, mais ça, si ça marche, ce sera super. Donc allons-y. Voilà.
Et cette autocensure, elle est moins masculine, peut-être?
Je pense. C'est ancré dans des mécanismes, on ne va pas rentrer dans un débat philosophique ou dans la théorie des genres, hein, mais l'histoire... pèse énormément sur les comportements qu'on ne maîtrise même plus, en fait, tellement qu'ils sont ancrés dans la société, dans soi-même, et que ça va dépendre de la façon dont on est entouré, dans la façon dont on a été éduqué, de ce qu'on a pour... Voilà, pour se dire, non, en fait, pourquoi pas moi, tout simplement. Au-delà de la part femme-homme, il y a aussi toute la diversité des profils au sens un peu plus large du terme. Et même si ce n'est pas très charté, au sens écrit dans des politiques RH, la culture de la boîte fait qu'aujourd'hui, c'est extrêmement ouvert et que le sujet n'existe pas vraiment, on va dire. Donc moi, je ne me suis pas du tout sentie stigmatisée par le fait d'être une femme en arrivant. Alors après, je me suis dit que ce n'était pas un sujet, donc peut-être que du coup, ça a été moins un sujet pour les autres. Voilà, c'est plus simple. Mais je ne l'ai pas ressenti. Voire même, ça pouvait être un différenciant parce que c'était pas complètement commun. Donc, on peut s'appuyer sur ça. Je considère que c'est plutôt un atout.
Parce que, ouais. Justement, on va se souvenir, voilà, il y a cette structure-là, tiens, elle a mis une femme à sa tête.
Il faudra poser la question aux autres, savoir si ça les a marqués. Je pense que dans le numérique aujourd'hui, être une femme est vraiment un atout. Parce qu'on est dans un secteur qui est encore aujourd'hui, malgré la crise économique et sanitaire, plutôt en pénurie de profils. Donc, une ouverture beaucoup plus simple, de fait, à tout type de profil, que ce soit des profils en reconversion, que ce soit des parcours en alternance, que ce soit des très expérimentés qui ont eu d'autres vies professionnelles et qui vont revenir dans la tech. Enfin, toutes les configurations existent et ça laisse une place forcément à toutes les diversités si on considère que homme-femme c'en est une. Voilà. Mais on peut. On est attaché à avoir quand même des profils en reconversion assez régulièrement parce que c'est quelque chose qui apporte vraiment de la valeur quand c'est des parcours réussis et qui apporte d'autres manières de penser. Donc c'est en règle générale très riche quand on a un mode assez collectif de fonctionnement. Il n'y a pas d'objectif en tant que tel de diversité, mais on recherche de la compétence. Donc à partir du moment où on se dit que ce qui est important est d'avoir les compétences qui sont en adéquation avec notre marché. Ça doit normalement casser les barrières qu'on pourrait avoir sur ces sujets-là.
Tu as un peu de recul sur ces profils en reconversion. Il y en a beaucoup aujourd'hui parce qu'il y a des écoles qui forment justement sur des périodes assez courtes. Est-ce que ça fonctionne plutôt bien, les intégrations de ces profils-là?
Alors, ça fonctionne assez bien. On a eu plutôt, nous, des reconversions qui se passaient quand même sur des filières moyennes à longues, donc des équivalents Bac plus 3, Bac plus 4, pardon. Donc, on a quand même la capacité pour les concernés qu'ils acquièrent aussi dans le cursus de formation hors du stage des compétences de base qui sont quand même après, derrière, assez indispensables, je pense, pour la réussite. J'ai pas de recul sur les formations très très courtes qu'on a parfois en 3 mois, 3 à 6 mois. Je pense que là, ça va beaucoup beaucoup dépendre de l'individu en tant que tel, et que faudrait regarder les statistiques, mais à mon avis, le choix du profil là va être assez déterminant, en plus de la formation qu'il a choisie. Après, on a la volonté de faire des parcours d'intégration qui sont réussis, donc on a quand même alors j'allais dire une sélection, mais oui, tout de même, on va chercher des profils avec qui on se projette bien pour travailler sur les compétences techniques, mais aussi sur les soft skills. Donc, dans un marché où en plus c'est très dynamique, il faut être extrêmement rapide dans le processus de recrutement, s'adapter, être attractif aussi, et en plus remplir des critères où on se dit on va pouvoir se projeter quand même sur un parcours collaborateur, entreprise qui fonctionne. Là, oui, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il faut aller au plus tôt sensibiliser sur ces métiers-là qui sont très méconnus aujourd'hui, parce que c'est un métier de service, donc qui est difficile à rendre tangible pour les populations les plus jeunes. Si on veut, on peut commencer à faire de la sensibilisation professionnelle très tôt, mais si on parle de collégiens, déjà, comprendre ce que c'est qu'une entreprise, c'est compliqué. Une entreprise de service, qui plus est dans le numérique, là, on peut en perdre beaucoup en route. Donc, il faut être très pédagogique. Mais il faut pouvoir sensibiliser au fait que ce ne sont pas des métiers... parce qu'on va avoir le cliché du geek dans son garage, qui est évidemment pas du tout la réalité. Voilà, c'est ça. Bon, en vrai, c'est pas ça. et du coup, sensibiliser au fait que ce n'est pas des métiers... De garçons, en fait, tout simplement. Mais là, il faut remonter dès le démarrage sur la sensibilisation aux sciences et aux métiers derrière qui vont pouvoir être liés au numérique, qui est une filière à part entière, sur le fait que ce n'est pas réservé à...
Et du coup, c'est un travail que doit mener la filière numérique dans son ensemble, les entreprises, pour attirer plus de gens vers leur métier. C'est plutôt que l'éducation nationale qui est généraliste.
Oui.
C'est quelque chose que doivent prendre en charge les...
On doit s'emparer du sujet pour le faire avancer. Après, au sein de l'éducation nationale, ils vont pouvoir sensibiliser aux pratiques, plutôt peut-être pour déceler le vrai du faux dans les médias, et puis savoir analyser un contenu. Mais ils vont pas forcément, c'est pas la mission aujourd'hui, je pense, d'ouvrir là-dessus, enfin pas si tôt, peut-être pas. Donc le sujet, il est vraiment majeur, parce que je pense que c'est pas que dans les métiers du numérique qu'on voit ça, c'est dans toutes les filières où aujourd'hui on a majoritairement des femmes dans le métier du care, parce que c'est les femmes qui soignent, etc., culturellement vont pouvoir s'occuper d'eux, là où dans les métiers plus scientifiques, mais bon, il y a des milliards d'exemples comme ça, on va retrouver plutôt des hommes parce que maths, etc., ce qui évidemment à déconstruire, mais là la montagne, elle est très très grande. Il y a une rupture après le bac, ça c'est sûr. Donc, ouais.
En fait, c'est des choix qui sont faits, des autocensures, comme on disait tout à l'heure, et qu'il faut un peu déconstruire ou
c'est ça. Changer. Ouais. Donc là, la filière numérique a son rôle à jouer. Elle ne peut pas le faire seule, parce qu'il faut aussi que les filières de formation au travail, mais bon, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites à ce titre-là. Il y a des ateliers DevOps for Kids qui existent, qui vont sensibiliser les moins de 10 ans sur ces sujets-là, ou moins de 12 ans. On a des associations qui vont promouvoir le numérique pour les filles, les Girls Can Code, etc. Il y a plein d'initiatives aujourd'hui, donc ça va payer, mais il faut continuer. Et il faut que ça devienne un message qui est martelé jusqu'à temps que ça rentre. J'espère. J'espère. Ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur www.comemedia.com et sur les plateformes Deezer et Spotify.